Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Il a servi le premier empire en France avant de partir au bout du monde pour en servir un deuxième. Il a vu le Brésil prendre son indépendance et on n'a pas les moindres détails sur ses toiles avant d'en choisir les couleurs de son drapeau. Je vous raconte maintenant le peintre français exilé au Brésil, Jean-Baptiste Debré. Nous sommes le 28 mars 1816 dans la baie de Rio de Janeiro. Le Calpe est un petit voilier américain venu tout droit du Havre à Costa après 2 mois de traversée. Si les cales sont pleines, ce sont surtout les passagers qui attirent l'œil. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit débarquer 40 Français d'un coup dans la plus grande ville du Brésil, d'autant que ces Français ne sont pas des marins ou des négociants, mais des artistes. Parmi eux, un homme se distingue. Il s'appelle Jean-Baptiste Debré. C'est un peintre qui a tout perdu. Son empereur, d'abord, puisque la chute de Napoléon Ier a privé l'artiste de son principal client. Mais surtout, son fils, emporté la même année que le Premier Empire. En quittant la France à 48 ans, Jean-Baptiste Debré ne laisse que des larmes et des regrets. Tout avait pourtant si bien commencé. Né dans une famille aisée, Jean-Baptiste aurait pu être greffier comme son père ou architecte comme son frère. Mais vers l'âge de 15 ans, il décide plutôt de devenir artiste comme son cousin, Jacques-Louis David, l'homme à qui l'on devra plus tard le fameux tableau du Sacre de Napoléon, celui où l'empereur s'apprête à poser la couronne impériale sur la tête de Joséphine de Beauharnais. Mais nous n'en sommes pas là. En 1789, quand la Révolution éclate, Jean-Baptiste Debré a 21 ans et ne laisse aucune trace d'un engagement quelconque au cours d'une période qu'il préfère consacrer à l'apprentissage de son art. Pour rien, ou presque. Car en 1791, lorsqu'il remporte le second prix de Rome, la France n'a pas la tête à la peinture et la fièvre révolutionnaire emporte vite les ambitions du jeune homme qui se rabat sur le dessin industriel aux ponts et chaussées d'abord, à l'École centrale des travaux publics, la future Polytechnique ensuite. Sa carrière d'artiste ne décolle vraiment qu'avec l'Empire. L'époque est aux sujets historiques ou mythologiques. Dans la foulée de la campagne d'Égypte et des premières découvertes archéologiques, le néoclassicisme fait rage et Jean-Baptiste Debré s'en donne à cœur joie avec des œuvres comme Aristomène délivré par une jeune fille ou Érasistrate découvrant la cause de la maladie du jeune Antiochus. Repéré, le peintre rejoint le cercle fermé des artistes d'État, recrutés pour exalter la période qui s'ouvre. Fervent admirateur de l'aigle, Jean-Baptiste Debré ne se fait pas prier pour servir l'imagerie impériale avec des œuvres de commande. En 1815, la bataille perdue de Waterloo est un rude coup pour les artistes proches du pouvoir, bien conscients que la Restauration ne leur fera pas de cadeau. Mais en lui proposant une mission de plusieurs années dans sa colonie du Brésil, le Portugal lui offre une seconde chance que Jean-Baptiste Debré décide de saisir, sans trop savoir sans doute où il s'aventure. Mais après tout, il n'a rien à perdre. Sur le papier, la promesse est belle. Il s'agit de fonder à Rio de Janeiro une académie des beaux-arts inspirée de celle que la France a déjà érigée. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Au Brésil, les élites portugaises ne voient pas toujours d'un bon œil l'arrivée de ces Français, artistes certes, mais partisans d'un premier empire qui n'avait pas hésité à envahir le Portugal. Alors, les tensions sont vives, les commandes sont rares et les tracasseries nombreuses. En 1820, l'Académie des Beaux-Arts n'a toujours pas ouvert ses portes et le plus gros du contingent français repart pour la France de Louis XVIII. Jean-Baptiste Debré, lui, décide de rester. Rio lui plaît et il fait partie de ceux qui ont réussi à retrouver une activité de peintre officiel du royaume brésilien, vassal du Portugal. L'année suivante, la grande histoire le rattrape à nouveau. Régent du royaume, le propre fils du roi du Portugal décide que l'autonomie du royaume brésilien ne suffit plus. En octobre 1822, l'indépendance est déclarée et Pierre d'Alcântara devient l'empereur du Brésil, Pierre Ier. Pour Debré, c'est une chance. Quand on a servi un empereur, on peut bien en servir un autre. Le peintre se met tout naturellement au service du pouvoir. Et comme son CV impressionne, c'est à celui qui est alors peintre particulier de la maison impériale que le tout nouvel empereur confie le soin de dessiner le drapeau de la jeune nation brésilienne. Si la fameuse devise « Ordem et progresso » ne figure pas encore, pas plus que le globe bleu avec ses 27 étoiles, c'est bien Jean-Baptiste Debré qui a imaginé les couleurs et le dessin du pays Auriverde avec le célèbre losange jaune sur un rectangle vert. rapidement titulaire de la chaire de peinture de l'Académie des Beaux-Arts, qui finit enfin par ouvrir ses portes, Debray voit sa situation s'améliorer. Mais de nouveaux troubles menacent le jeune empire brésilien. L'artiste décide de ne pas attendre un nouveau Waterloo. En 1831, Debray revient en France. Il ne retournera jamais au Brésil, mais il n'en a pas fini pour autant avec le pays où il s'était un temps exilé. À 63 ans, Jean-Baptiste Debray se lance dans ce qui est peut-être sa plus grande œuvre, la rédaction de son voyage pittoresque et historique au Brésil, un ouvrage construit autour de 153 planches sélectionnées parmi les quelques 600 aquarelles et croquis qu'il a rapportés du Brésil. Sans doute, Debray pense-t-il en tirer une sorte de rente pour ses vieux jours, mais la mode des livres de voyage est passée et l'ouvrage se vend mal, qu'importe. Son intérêt dépasse les chiffres de ses ventes et son œuvre est une espèce à part, portée par un regard de témoin et presque d'ethnologue, soucieux de dépasser la seule image en y ajoutant une série de textes. Dans la main de cet homme à cheval entre deux siècles, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, et entre deux mondes, le vieux et le nouveau monde, la plume est là pour décrire ce que le pinceau ne suffit pas à montrer. Loin de se limiter au sujet de cour, l'homme qui a servi deux empereurs s'intéresse au Brésil de tous les jours, celui des rues de Rio de Janeiro. Il montre toute la société brésilienne sans se contenter de peindre des colons portugais. Loin de l'or des palais de Rio, il peint un autre Brésil au travers de ses portraits d'esclaves noirs et indiens pour mieux dénoncer leurs conditions d'existence. Il montre le Brésil des petites huttes, celui des quartiers pauvres, des chants et des ateliers, le Brésil des chants et des danses, celui des sorciers, des rites, des mariages et des enterrements. Il donne à voir toute la complexité d'un pays immense, d'une nation en construction, mélangée, diverse, injuste et belle, joyeuse et tragique, cruelle et souriante tout à la fois. Si à son retour en France, Debray n'en a donc pas fini avec le Brésil n'en avait pas non plus fini avec lui. Un peintre qu'elle redécouvre bien des années plus tard, en 1944, lorsque l'œuvre de Jean-Baptiste Debray, mort oublié en 1848, est enfin traduite en portugais. La nation Riverde découvre alors étonnée le témoignage d'un homme qui était là au temps de sa naissance, et le peuple brésilien, quant à lui, redécouvre l'histoire de son drapeau, de ses couleurs et de cette lumière qu'on ne trouve que là-bas, au pays du vert, du jaune et du bleu, ce bleu pur d'un ciel que le peintre français avait tant aimé.